Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Adam Bachko, chargé de recherche au CNRS et au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Alors, je vais citer l'un de vos derniers ouvrages publiés, qui est « Syrie, anatomie d'une guerre civile » en 2016 avec Arthur Kenney et Gilles Doron-Soreau, mais vous êtes aussi et surtout spécialiste de l'Afghanistan, dont on va parler aujourd'hui dans la foulée de l'accord entre les États-Unis et les talibans fin février, et sur lequel vous avez fait votre thèse, thèse qui a d'ailleurs reçu récemment le prix de thèse Bastien Hirondel de l'AEGES. Donc félicitations et bonjour, et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour, merci.
Alors, je l'ai dit, il y a un accord récent dont il va falloir parler, dont on va parler pour voir ce qu'il entérine un peu en termes d'enlisement et les perspectives qu'il ouvre. Mais je me suis aperçu en fait en préparant l'émission qu'on n'avait jamais vraiment traité le sujet de l'Afghanistan en tant que tel. On en a parlé évidemment, mais toujours un peu par la bande, notamment au travers des expériences de l'armée française ou des difficultés américaines. Et évidemment, je pense que c'est une très bonne manière de rien comprendre à la situation que de l'aborder à partir seulement de l'intervention de 2001 et du point de vue occidental, et il faut remonter donc bien plus loin. Alors, le point de départ naturel qui m'est apparu, mais peut-être que vous aurez envie de remonter encore plus loin, c'est évidemment 79, ou plutôt 78, où, selon un schéma de guerre froide qui n'est pas exactement inédit, il y a un coup d'État militaire qui renverse le président, donc Mohamed Daoud, et qui fait s'engager le pays dans une voie de développement socialiste, qui provoque ensuite une insurrection qui amène une intervention soviétique en septembre 79. Alors, je sais pas, c'est un point, c'est quoi? C'est ça le point de départ ou est-ce qu'on remonte un peu plus loin puisqu'il y a eu...
On aura besoin de contextualiser quelques éléments en remontant plus loin, mais c'est vraiment en 78 que commence cette guerre et c'est important à comprendre. C'est-à-dire que l'Afghanistan est maintenant en guerre depuis 42 ans. Quand on imagine une population dont la moitié de la population a moins de 18 ans, ça signifie qu'en fait 80-90% des Afghans ont vécu toute leur vie dans la guerre et les 10-20% restants n'ont vécu dans la paix que très jeunes, qu'enfants. Donc c'est réellement un pays qui a vécu toute sa vie en guerre et cette guerre commence et effectivement ce qui se passe après 2001 est incompréhensible si on contextualise pas dans la guerre qui commence en 78 parce que toute une série de points de tension émergent et typiquement les questions qui nous paraissent très contemporaines sur l'Afghanistan comme la question des droits des femmes, comme les dynamiques d'ethnicisation, comme les conflits fonciers par exemple, sont des dynamiques qui sont très importantes dès 1978. C'est des choses qui commencent bien avant. La guerre vraiment s'installe dès 78 dans ces modalités qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, mais alors justement, entrons là-dedans. Et puis, par exemple, en fait, c'est l'épisode de 79, on en parle souvent, la plupart du temps, comme d'un truc, un pur conflit de guerre froide, quoi, de jeu entre les puissances occidentales, donc les soviétiques qui interviennent, qui s'enlisent, les américains qui favorisent l'insurrection pour favoriser cet enlisement, etc. Mais vous êtes spécialiste, notamment des structures politiques au sein de l'Afghanistan, ce qui peut peut-être nous permettre d'aller un peu plus pour une fois en profondeur, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'elle s'est caractérisée, disons, cette intervention soviétique et la réaction afghane? Et voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer, au-delà de cette espèce de boîte noire qu'est la guerre froide, les grandes puissances, qu'est-ce qui a fait que ça débouche sur un échec assez retentissant, quand même, 10 années plus tard, donc avec le départ des soviétiques en 89?
En fait, dès 78, la guerre se traduit par une forme de révolution sociale. Et il se joue... une série de choses qui sont des bouleversements pour la société afghane. Déjà, très simplement, l'Afghanistan évite les deux guerres mondiales. C'est un pays qui reste plus ou moins en dehors des guerres et surtout en dehors des combats et qui donc n'a jamais connu la guerre moderne. Or, l'intervention soviétique, c'est l'intervention d'une armée justement qui s'est structurée dans la Seconde Guerre mondiale, qui a une doctrine d'armée conventionnelle, avec l'usage des forces spéciales, d'hélicoptères, de blindés, dans un pays où, à l'inverse, la guerre était encore, c'était un des pays qui n'avait pas encore passé ce moment que la Première Guerre mondiale avait détruit, celui d'une guerre héroïque, individuelle. Et donc, le choc de la guerre est un choc vraiment quasi, j'ai envie de dire, cosmogonique entre deux visions de la guerre. C'est aussi une révolution sociale parce que d'un point de vue afghan, le parti communiste fait partie des deux grandes mouvances idéologiques des années 70 qui cherchent à transformer la société en profondeur. Il y en a deux qui s'opposent dans les universités, dans les campus dans les années 70. C'est d'un côté les mouvements communistes, maoïstes, socialistes sous diverses formes et de l'autre côté des mouvements islamistes. Et les deux existent. Les communistes sont On a plein de concurrence entre ces deux mouvements, entre les mouvements étudiants. L'avantage des communistes, et c'est essentiel pour comprendre pourquoi ils s'imposent en 78, c'est qu'ils ont une meilleure présence dans l'armée du fait que Moscou entraîne les officiers.
Oui, c'est la diplomatie d'influence des cadres de l'armée que Moscou a répandue dans tant de pays non alignés ou tiers-mondistes dans les années 60-70. Quoi.
Exactement, et l'Afghanistan essaye. L'Afghanistan, qui est un pays rentier en fait.
Parce qu'il faut le dire simplement. Donc il y a eu un premier changement en 73. Il y a une royauté qui s'effondre en 73, une sorte de république qui arrive, et en 78, c'est un coup d'État à la fois communiste et militaire.
Oui, tout à fait. Hein.
Donc, par ces généraux, si
on part même d'un peu plus tôt, hein, parce qu'on a toujours cette vision de l'Afghanistan comme un pays sans État, c'est une erreur grossière. Hein. L'État s'installe en Afghanistan de manière très ferme à partir de la fin du 19e siècle, sous la pression des deux colonisateurs russes et anglais. Et quelque part, l'État afghan se construit immédiatement comme un État rentier, puisque en fait, les Anglais financent très fortement l'armée pour s'assurer d'avoir une autorité qui permettrait de réprimer les révoltes dans ces marges coloniales. Et donc, dès la fin du 19e, et c'est encore le cas dans les années 70, l'État afghan joue sur des rentes de situation. D'abord les Britanniques, et puis après 45, les Soviétiques et les États-Unis. Sauf que le problème, c'est qu'entre, dans le contexte de la guerre froide montante, chacun des deux essaye de mettre l'Afghanistan dans son escarcelle, et l'Afghanistan essaye de rester au contraire dans une position d'équilibre. Et donc les États-Unis reçoivent une grande majorité des projets de développement économique. L'État afghan dans les années 70 s'inquiète très fortement de l'importance de l'Union soviétique dans l'armée. Hein, et typiquement quand cette monarchie tombe sous le coup d'un coup d'État par le cousin du roi, hein, ce qui n'a quasiment aucun effet politique en 73, hein, Daoud Khan, le cousin du roi Zahir Shah, prend le pouvoir, ça n'a quasiment aucun effet parce que immédiatement Daoud Khan rétablit l'équilibre, il va voir Washington, il déçoit Moscou, gardant une forme de jeu entre les deux. 78, c'est une rupture dans ce jeu d'équilibre que fait l'Afghanistan, parce que le Parti communiste, pour la peine, qui prend le pouvoir dans un moment de... Le coup d'État résulte en fait d'une improvisation suite à la répression par le président Daoud Khan du Parti communiste. Le dirigeant du Parti communiste est mis en prison et l'armée répond en se mutinant et en prenant le pouvoir. Et dès ce moment-là commence une logique d'engagement du côté de Moscou, mais en même temps une logique de transformation de la société afghane. Et c'est là où il se joue des choses dans la société afghane qui sont aussi fondamentales que la guerre froide, parce que ce gouvernement devient un gouvernement d'éduquer de gens qui sont sortis des universités et qui sont quelque part en rupture avec le reste de la société sur une série de questions, le mariage, la propriété foncière. Et donc c'est les deux grandes questions notamment sur lesquelles le Parti communiste propose des réformes très innovantes pour le pays, qui sont en rupture avec ce que le pays a vécu, notamment l'interdiction du paiement de la dot pour les femmes, et une politique de redistribution foncière, les deux ayant paradoxalement des conséquences catastrophiques, parce que la redistribution foncière est faite sans donner les moyens de production, donc elle provoque un effondrement économique, et de l'autre côté la question de la dot ne prend pas en compte la manière dont en fait la dot joue un rôle de protection aussi des femmes qui peuvent ainsi sortir du mariage. Mais peu importe, elles sont aussi rejetées par la société.
Ouais, non mais c'est intéressant, du coup on est sur un des échecs des modèles de développement soviétique ou inspirés de l'URSS.
Tout à fait.
Et c'est donc devant cette espèce de faillite à en tout cas s'imposer localement, quoi, enfin dans les structures locales et enfin concrètes, quoi, qu'il y a une insurrection qui se développe, d'où l'intervention soviétique donc de 79, avec enfin c'est vraiment les chars, quoi, qui débarquent.
Oui, en 79, des colonnes blindées. En fait, l'intervention résulte d'un double problème. Le premier, c'est que l'insurrection s'étend de manière décentralisée. Hein, elle n'est pas le résultat d'un grand plan, elle est le résultat de résistance locale de partout, d'un parti communiste qui réagit à ces révoltes dans les régions de manière extrêmement violente, avec une répression politique radical, des dizaines de milliers d'Afghans sont mis en prison, torturés, il y a vraiment une répression très forte qui amène l'armée à se mutiner. Et donc on a d'un côté l'effondrement de l'État qui n'arrive pas à réprimer la périphérie, et de l'autre on a des conflits internes au sein du Parti communiste qui a l'habitude de jeux de purge mélangés à des jeux de concurrence, qui fait qu'en 18 mois on a trois changements de secrétaire général jusqu'au moment où Moscou justement tape du poing sur la table, très inquiet de l'effondrement du régime régime à peine naissant, et donc intervient, installe son propre secrétaire général à Moscou, tue le précédent, fait une intervention de forces spéciales et d'hélicoptères à Moscou en même temps que des colonnes de blindés rentrent dans tout le pays et prennent le contrôle de toutes les villes.
Ouais, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'on commence à entrer directement dans les pages qui nous intéressent et qu'on commence à connaître, puisque évidemment, face à ça, il va y avoir le travail d'insurrection et de soutien à l'insurrection islamiste, que sont les Moudjahidines, qui émergent à ce moment-là, par la CIA, par l'intermédiaire, notamment, je crois, des services secrets pakistanais. C'est-à-dire, il y a une espèce de jeu à trois, et c'est le truc qu'on dit toujours, que Ben Laden a été créé par les Américains. Bon, c'est une simplification, mais en tout cas, il est vrai que c'est les Américains qui ont travaillé à créer ce terreau islamiste insurrectionnel en Afghanistan.
En fait, l'insurrection dans les premiers mois est très diverse, et c'est vraiment le Pakistan joue un rôle essentiel, comme souvent hein, dans la plupart des conflits armés. Le
Pakistan, dont il faut toujours rappeler que dans le cœur de la guerre froide dans la région, c'était l'allié des États-Unis.
Tout à fait.
L'Inde joue un jeu compliqué, mais plutôt du côté soviétique, enfin plutôt du côté du bloc de l'Est. Quoi.
Et le Pakistan qui a connu avec le général Ziaul Haq l'arrivée dans le pays d'un régime qui joue de la légitimité islamiste. De l'idéologie islamiste pour s'imposer. Et on est entre le contexte iranien de la révolution de 79 et celui pakistanais où en 78 on a un gouvernement islamiste, dans un contexte où le Pakistan en particulier va jouer de sa position de parrain de l'insurrection, de sanctuaire où se peuvent se réfugier les combattants et où se réfugient aussi les réfugiés, un grand vivier de recrutement de tous les partis qui veulent se battre en Afghanistan, pour favoriser les partis islamistes aux dépens des autres partis. Et quand les États-Unis décident d'intervenir...
On va juste préciser, à l'époque, on ne parle pas encore de talibans. Hein, ça viendra,
les talibans apparaissent en 94.
Après, ça viendra après. Pour l'instant, c'est juste une insurrection islamiste.
Voilà, qui est organisée dans une série de partis. 9 sont reconnus par Islamabad. 6 d'entre eux sont islamistes. 3 d'entre eux sont monarchistes, basés sur des réseaux religieux, sur des dignitaires soufis qui les commandent. Mais ces 6 partis, ces 9 partis, pardon, sont ceux que le Pakistan reconnaît et qui finissent quelque part par s'imposer par le simple fait que le Pakistan impose que toute personne qui veuille, qui se batte ait une carte de l'un de ses partis. Ils sont les seuls à avoir accès aux camps de réfugiés, ils sont surtout les seuls à avoir accès à l'argent, en particulier les plus islamistes d'entre eux, puisque le Pakistan les favorise systématiquement. Et quand les États-Unis se mettent à soutenir de manière de plus en plus forte l'insurrection, notamment au milieu des années 80, ils le font par l'intermédiaire du Pakistan, c'est-à-dire en donnant au Pakistan les clés pour choisir quel est le groupe qui en recevra le plus d'argent. Et le Pakistan fait le choix des groupes les plus islamistes, comme le Hezb-e Islami par exemple, ou le Jamiat Islami, qui sont deux des grands groupes qui vont évidemment prendre leur essor à cette époque-là.
Ouais, donc les années 80, c'est vraiment une histoire de la montée en puissance. Enfin, on le reverra souvent, c'est vraiment des histoires de conquête lente et progressive du pays, quoi. Enfin, il y a aussi des moments de percée fulgurante, mais c'est vraiment assez caractéristique que ces mouvements islamistes, assez souvent, ils progressent petit bout par petit bout. Et ça a fini par culminer donc en 89 avec le retrait des Soviétiques. Et là commence une sorte de période de guerre civile, il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. Où les différents groupes anciens Moudjahidines s'affrontent les uns les autres.
Alors, il y a une différence essentielle entre les années 80 et les années 90, c'est que les Soviétiques parviennent à produire un régime qui a un ancrage beaucoup plus fort que celui que vont mettre en place les Américains. Pour une série de raisons, les Soviétiques se concentrent sur les villes, ce qui est une stratégie efficace parce qu'elle produit une forme de classe moyenne qui est très attachée au régime. On a des constructions de logements sociaux dans les villes afghanes qui existent toujours encore aujourd'hui, qui sont d'ailleurs les seuls logements sociaux existants en Afghanistan. On a une politique de milicianisation, on y reviendra pour les années 2000, mais qui est très différente justement de celle des années 2000 parce qu'elle se concentre autour des villes, elle crée une forme d'anneau de protection qui marche beaucoup mieux. Et surtout, les Soviétiques ont une politique beaucoup plus efficace de combat contre l'insurrection, puisqu'ils arrivent profitant aussi de la division produite par le Pakistan, à diviser encore plus l'insurrection. Sachant qu'il y a autre très grande différence avec les années 2000 qui avantage les Soviétiques, c'est que les partis dont
c'est marrant ce parallèle, en fait, c'est comme ça, vous y réfléchissez en termes de parallèle. Oui, les Soviétiques sont arrivés, ont essayé de créer un État comme un point de repère par rapport à ce que vont faire les États-Unis après 2001.
Tout à fait. Et ils ont aussi un avantage comparé aux talibans dont on parlera plus tard, hein, c'est que les partis qui émergent avec le Pakistan sont très artificiels au sens où ils n'ont pas de militants, ils ont très peu de militants à l'intérieur du pays. Et on va donc avoir tout un problème dans l'insurrection islamiste qui explique la guerre civile post-89, c'est qu'on a plein de commandants partout dans le pays qui en gros ont besoin de ressources et donc ont besoin de s'affilier à un de ces partis au Pakistan, mais en même temps c'est eux qui contrôlent le terrain. Et donc quand on s'approche d'un retrait soviétique qui est d'abord lié à l'effondrement de l'Union soviétique, hein, qui est donc d'abord lié à un facteur externe, un analyste célèbre que je ne citerai pas et qui pourtant avait raison disait en 86 que les soviétiques avaient gagné, et c'était en fait un bon jugement. En 86, il était peu probable que l'insurrection islamiste soit capable de que les moudjahidines soient capables de prendre le pays. Cependant, entre-temps, l'Union soviétique s'effondre de l'intérieur et les moudjahidines se retrouvent dans une position avantageuse. La preuve de leur incapacité à prendre le pays, c'est que quand l'Union soviétique s'effondre et laisse un régime chancelant à la place, sous l'impulsion du Pakistan, les moudjahidines attaquent la ville de Jalalabad, juste à l'est de Kaboul, et qui est vraiment la clé pour monter vers Kaboul, hein, géographiquement parlant. Les moudjahidines ne parviennent pas à prendre la ville. Hein. Il faut vraiment attendre 1992, le moment où l'argent que reçoit Najibullah, le dirigeant mis en place par les soviétiques en 86, s'arrête et que des milices produites par les soviétiques, celles de quelqu'un qui devient un célèbre par la suite, qui est Abdul Rashid Dostum, se retournent, hein, contre le régime et entraînent une sorte de course de l'ensemble des grands commandants pour s'emparer de Kaboul, amenant à une logique de conflit fratricide entre les anciens alliés moudjahidines.
Ouais, enfin, l'exemple qu'on a toujours sur ces grands commandants, c'est Massoud, c'est vraiment une logique de chef de guerre, de grandes troupes, de grands commandants qui se partagent, enfin, qui sont en concurrence à cette époque-là et qui débouchent donc, dont la lutte fratricide débouche donc sur cette période d'instabilité, bon, à partir de 89, mais surtout entre 92 et 94, 96.
Ouais, tout à fait. Massoud, c'est un cas exemplaire parce que c'est le plus brillant d'entre eux. C'est un militant islamiste formé au lycée français. Il devient militant islamiste. Qui participe au coup d'État de 1975 que tentent de faire les islamistes, qui échouent, il se réfugie au Pakistan et il est un de ces rares d'ailleurs militants islamistes qui dans la révolte de 78 a un rôle important puisqu'il revient au Panjshir pour essayer de fomenter la révolte. La révolte au Panjshir fonctionne relativement bien. Il s'affilie à un de ses partis, le Jamiat al-Islami, et il est l'une des personnes qui pense le plus le gouvernement des populations par une insurrection. Donc il met en place une série de comités, mais s'il est le plus brillant d'entre eux, il reste dans une logique fondamentalement très régionaliste, dans une logique de contrôle d'un territoire qui reste fondamentalement au nord-est, hein, et quand la guerre civile commence en 92, il fait partie des gens qui vont passer leur temps à faire des alliances, à se retourner les uns contre les autres, à se battre dans Kaboul, provoquant une division incessante de la ville. À Kaboul, la ville est divisée entre 3-4 parties. À Kandahar, ville extrêmement importante puisque c'est de là que viennent les talibans, la ville est divisée en une douzaine de territoires avec des combats à l'artillerie lourde qui sont quotidiens.
Bah oui, bah alors justement, parlons-en. C'est le moment, et c'est de ce chaos, de cette extrême division, que va émerger la grande force des années 90, enfin de la deuxième moitié des années 90, que sont les talibans. Alors, talibans, on va répéter que ça veut dire plus ou moins étudiants, puisque ce sont des anciens étudiants d'école coranique, proches de la frontière pakistanaise, qui forment le vivier, le terreau de ces forces talibanes. Et c'est une montée en puissance sur le territoire afghan de 94 à 96, puisque 96, c'est le culminant, puisque c'est à ce moment-là qu'ils prennent la capitale, Kaboul, sous le commandement de quelqu'un qui est devenu ensuite célèbre, notamment sous une forme anecdotique, en France, parce qu'il était beaucoup au Guignol, mais c'était le Mollah Omar, qui devient aussi le chef de fait d'État pakistanais. Afghan.
Oui, tout à fait. Et pour comprendre la victoire fulgurante des talibans en 2 ans, alors qu'aucun parti n'arrivait à s'imposer jusque-là, hein, les talibans s'imposent à une vitesse extrême, c'est parce que le mouvement émerge contre la guerre civile, le désordre et le chaos. Hein. Son motto à l'époque, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui c'est toujours le même, c'est ordre et justice. Hein. Et c'est un mouvement qui se présente, alors c'est un mouvement qui résulte de réseaux cléricaux, donc de mollahs et d'oulémas, des dignitaires religieux, D'où l'importance du nom que se choisit ce mouvement, le fait d'être le représentant des écoles religieuses qui ont structuré le clergé afghan depuis la fin du XIXe siècle. Et c'est ce réseau d'écoles qui va permettre aux talibans, d'une part, d'avoir un flux de combattants très important, mais aussi, et c'est très important, une capacité bureaucratique, parce que ce clergé est très hiérarchisé. Ces écoles amènent un clergé qui a l'habitude de travailler ensemble, et ça va donner d'excellents cadres pour un mouvement armé. D'ailleurs, les talibans sont quelque part le mouvement clérical qui a réussi, mais en fait, vous aviez des mouvements proto-cléricaux de ce type de mouvement qui émergeait un peu partout, à Razni, dans l'Helmand, dans une version salafiste dans la Kunar. Les talibans, c'est en fait ceux parmi cette éclosion de mouvements de religieux qui s'imposent dans le pays. Et ils s'imposent.
C'est en fait, on peut dire, dans un État qui n'a pas vraiment de structure centralisée, enfin qui n'a pas vraiment de structure étatique, les talibans fonctionnent comme une structure, et notamment comme une structure de recrutement et enfin une structure au sein du mouvement même.
Oui, c'est un mouvement qui est fondamentalement très étatiste, hein, au sens du côté organisé, au sens du côté bureaucratique. C'est un mouvement qui met beaucoup d'insistance, et on se trompe à se concentrer sur l'habit et la barbe pour imaginer que ce sont des gens désorganisés. Au contraire, c'est un mouvement qui, dès le début, met l'insistance sur le degré de formation d'un point de vue religieux, sur l'échelle, sur la place de chacun dans la hiérarchie religieuse. Et donc c'est un mouvement qui est extrêmement hiérarchisé, qui est extrêmement structuré, qui est extrêmement organisé. Et cet avantage-là par rapport à beaucoup d'autres partis s'ajoute celui que la guerre dès 78 a été posée comme un djihad, une guerre sainte, et que les religieux qui ont formé les talibans sont des gens qui souvent ont déposé les armes en 92 dès que la guerre civile a commencé, en considérant qu'elle n'avait plus de sens. Donc ils ont quelque part cette image d'être ceux qui ne se sont pas salis dans la guerre civile. Et dans un contexte, si naissent à Kandahar, ce n'est pas un hasard, hein, c'est la province où le nombre de combats entre les groupes armés sont les plus nombreux, où ils sont les plus fréquents. Et en ce sens, ils naissent vraiment dans l'endroit où les gens n'en peuvent plus de la guerre civile, ce qui explique l'attrait qu'ils ont au début, hein, puisque entre 94 et 96, énormément de gens rejoignent les talibans, énormément de commandants se retournent contre leur supérieur pour soutenir les talibans. Et c'est pour ça que beaucoup des grandes forces qu'on imaginait imbattables, Ismail Khan, Massoud, Dostum, s'effondrent comme des fétus de paille devant les talibans jusqu'à la prise de Kaboul en 96.
Ouais, mais alors, du coup, ça, donc on comprend bien donc, le ressort, c'est l'ordre qui éclot au milieu du chaos, et enfin, le soulagement est ce qui fait une progression assez rapide donc à l'intérieur du pays. Mais ensuite, il faut parler de la période après 96, donc avec les talibans au pouvoir, et cette espèce de... Si on le regarde d'un point de vue stratégique comme un jeu d'échecs, c'est un retournement par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire c'est le fait qu'ils viennent, ils ont été soutenus par le Pakistan et par les États-Unis de loin en loin, et qu'ils vont se retourner en une force anti-américaine, djihadiste, islamiste. Mais, enfin, comment dire, c'est... Pourquoi est-ce que ces talibans qui, justement, sont apparus comme une force de stabilité, d'État, d'ordre, vont devenir, paradoxalement, le plus grand facteur d'instabilité dans l'Afghanistan? C'est-à-dire, ça va devenir la pépinière du djihadisme, avec des camps d'entraînement d'Al-Qaïda, etc., etc., qui, in fine, vont produire la plus grande phase de chaos ensuite, avec les attentats, puis l'intervention occidentale.
Alors, il faut revenir un peu en arrière, parce que il faut imaginer, par exemple, qu'en 96, le département d'État considère les talibans comme un espoir pour l'Afghanistan, hein, et que...
Donc le département d'État américain.
Et même engage des négociations avec l'émirat islamique d'Afghanistan, l'État qu'instaure les talibans en 96, en vue de produire un gazoduc sous une entreprise argentino-américaine, une OCAL, pour amener le gaz d'Asie centrale par l'Afghanistan vers le Pakistan, et de pouvoir ainsi l'exploiter. Au début, les talibans sont vraiment vus par l'administration américaine comme une solution au problème que la guerre civile pose en Afghanistan. Le lien entre les talibans et Al-Qaïda, il vient plus largement de la place qu'a Al-Qaïda, enfin, et les combattants étrangers dans la guerre des années 80. Hein, parce que les années 80 sont un moment... de développement d'un engagement islamiste dans de très nombreux pays, hein, on a un vrai afflux de combattants venus de l'ensemble du Moyen-Orient vers l'Afghanistan pour aller combattre l'invasion soviétique, comme on le verra dans d'autres cas, la Bosnie-Herzégovine ou la Syrie plus récemment, où il y a une vision d'une
oui, une internationale djihadiste.
Voilà, et dans une vision d'une injustice à aller combattre. Et ces combattants sont à la fois bien accueillis, à la fois posent un problème parce qu'ils arrivent en méconnaissance du pays, et donc une personne va participer à les organiser, Abdullah Azzam, en installant à Peshawar un espace pour les diriger vers ici ou vers là.
Oui, donc ces camps d'entraînement dont on a fait des espèces de paroxysme du djihadisme international, en fait c'est une manière d'essayer d'organiser un peu cet afflux de types qui arrivent, qui savent pas quoi faire là. Enfin,
on est un peu avant, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on n'a pas encore les camps d'entraînement d'Al-Qaïda qui sont bombardés en 98. Hein. On est au moment encore où fondamentalement, on envoie des combattants qui sont une chair à canon à aller se battre un peu partout dans le pays. Mais c'est ce réseau-là, ce carnet d'adresses-là, hein. C'est ça Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est fondamentalement un carnet d'adresses. La base, c'est au sens du carnet d'adresses. Al-Qaïda, ça veut dire la base. Dont Ben Laden hérite. Et en héritant du carnet d'adresses, il hérite aussi des liens entre les combattants étrangers et de nombreux combattants afghans qui ont été frères d'armes pendant la guerre. Al-Qaïda offrant des combattants déterminés, plus ou moins compétents, des gens qui ont des compétences notamment dans les gestions d'explosifs ou de choses comme ça, mais qui vont servir les talibans dans la guerre.
Oui, mais la question, c'est une fois que les talibans sont au pouvoir, pourquoi pourquoi une fois que c'est eux l'État, pourquoi continuer, si ce n'est à favoriser, ou au moins à tolérer, ces camps et cette présence d'Al-Qaïda qui ne peut être qu'un facteur d'instabilité d'une manière ou d'une autre?
On a beaucoup d'hypothèses sur la question. En fait, on n'en sait pas grand-chose. On sait que Mollah Omar avait...
Mais ils sont plus là pour raconter maintenant.
Non, mais c'est surtout que le régime taliban était un régime très fermé. On sait que Mollah Omar et Ben Laden avaient une relation personnelle très importante. Ben Laden passait beaucoup de temps dans la maison de Mollah Omar à Kandahar. On sait aussi que le régime taliban, et c'est tout le paradoxe, hein, cherchait une reconnaissance internationale, ne l'obtenait pas, et moins il l'obtenait et plus il laissait de la place à Al-Qaïda. On a eu beaucoup de moments comme ça, j'ai envie de dire de moments où le fait de ne pas être reconnu chez les talibans se traduisait par des réactions extrêmes. Les Bouddhas de Bamiyan en sont un bon exemple, hein.
Donc les Bouddhas de Bamiyan, on va rappeler que ce sont ces grandes statues complètement monumentales de bouddhistes, originellement magnifiques, qui étaient classés à l'UNESCO, je crois. Et quelques mois avant le 11 septembre, il y a...
En 2000,
ouais, il y a une grande opération de communication, enfin, qui est une opération de terrorisme.
C'est filmé, on dynamite devant caméra, plein milieu de négociations avec les Nations Unies. Il y a vraiment une volonté, il y a une vraie stratégie de rendre visible et de faire de ça un message.
Avec évidemment l'idée islamiste qu'on n'est pas censé représenter de la figure humaine.
Tout à fait, dans un contexte de purisme qui, depuis les années 80, se développe dans les camps de réfugiés et dans l'Afghanistan, où toutes les modalités de fait, sont considérés comme un détournement vis-à-vis de la cause première, qui est de devoir se battre contre les soviétiques. Et les talibans sont, et plus largement une bonne partie de la société afghane, dans les années 90, pris dans ce discours-là, où les modalités de fait, la musique, l'art, sont des détournements vis-à-vis du problème politique qu'a l'Afghanistan. Il y a une deuxième logique à ça, qui est propre aux talibans cette fois, hein, c'est que les talibans sont un mouvement de religieux, mais ces religieux sont des oulémas, c'est-à-dire aussi des juristes en droit islamique, hein, et des juristes qui ont une foi hallucinante dans la capacité du droit à faire les choses. On se trompe souvent quand on manque le fait que les talibans sont un mouvement de non-droit. C'est au contraire, ce sont des obsédés du droit, avec les effets catastrophiques que peut avoir l'obsession du droit. Parce que si on veut comprendre ces histoires de décrets, parce que les talibans se mettent à faire des décrets pour tout et contre tout, ils font des décrets pour interdire les échecs, pour interdire les cerfs-volants, pour interdire les homards. Je tiens à rappeler que l'Afghanistan est un pays enclavé où il n'y a pas de mer, donc la présence de homards ne devait pas être très grande. Ces nombreux décrets-là sont les décrets d'un mouvement qui, définissant la guerre civile comme résultant de la corruption morale des Afghans, essaye de réguler, d'un point de vue légal, hein, la vie des Afghans dans les moindres détails pour s'assurer qu'ils soient enfin les bons citoyens qui éviteront le retour de la guerre civile. C'est là où on a un moralisme et un juridisme qui, l'un avec l'autre, vont produire cet ordre extrêmement dur, en particulier dans les villes, parce que la plupart des mesures interdisant le travail des femmes, par exemple, ont des effets beaucoup plus dramatiques dans les villes que dans les campagnes, où en fait, l'interdiction des emplois aux femmes, c'est évidemment pas le fait de faire de l'artisanat ou de travailler dans les champs, et donc en fait, ça touche d'abord les urbains qui vivent, eux, le sort le plus tragique pendant le régime taliban.
Le débouché, ou la conclusion de tout ça, donc de cette à la fois de ce régime islamiste, juridiste, et aussi de sa cohabitation avec des camps d'entraînement d'Al-Qaïda, qui sont là, on l'a dit, pour des raisons pas forcément très claires, mais en tout cas qui sont là et qui ont une réelle activité, c'est évidemment le 11 septembre. Alors on n'est pas obligé de revenir dans les détails, on voit assez bien l'idée. Mais, enfin, à moins que vous y teniez, mais globalement, l'idée, c'est qu'ensuite, il y a une intervention en Afghanistan qui est assez rondement menée, puisque elle se fait en quelques mois. L'intervention commence, donc il y a le 11 septembre, l'intervention commence début octobre, et globalement fin décembre, c'est terminé. Les talibans, la plupart des talibans sont soit morts, soit chassés du pays. Mais en fait, si on peut quand même dire que, contrairement à l'image qu'on a généralement et qui s'est formée par la suite, ce qui est marquant pendant cette première phase, et la phase principale de la guerre, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu d'intervention terrestre occidentale. C'est essentiellement les Afghans qui ont mené les opérations terrestres, évidemment avec un gros soutien aérien britannique et américain, mais en fait, paradoxalement, ce sont les Afghans eux-mêmes qui ont combattu et qui ont libéré le territoire des talibans.
Oui, il y a quelque chose de tragique à bien comprendre, que toute la logique qui se déroule depuis deux décennies se joue en fait dans les 3-4 premières années. La guerre a été gagnée à une vitesse fulgurante et en même temps elle a été perdue dans les années qui ont suivi et de manière aussi rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a toute une série de contraintes qui vont expliquer la manière dont les États-Unis vont faire le choix d'intervenir et ainsi qu'une série de biais. L'armée américaine a une doctrine depuis les années 80, appelée la doctrine Weinberger, qui considère que les États-Unis ne devraient jamais s'engager dans une guerre, sauf de manière très rapide et avec l'assurance de gagner. Bush a promis en tant que président de ne pas engager de troupes au sol, et il exige de ses généraux d'assurer cela. Et donc, la manière dont l'intervention est faite, c'est des forces spéciales qui sont mises aux côtés des anciens commandants des années 80, ceux-là même qui avaient participé à la guerre civile, qui sont devenus l'Alliance du Nord autour de Massoud, tué deux jours avant le 11 septembre,
oui,
pour
ça,
éviter
qu'il ait un commando. On va rappeler que Massoud se fait éliminer par un attentat terroriste le 9 septembre.
Tout à fait. Deux journalistes, deux terroristes déguisés en journalistes d'Al Jazeera qui, la caméra, en fait, dissimulait une bombe, ce qui est une manière pour Al-Qaïda d'anticiper la réaction américaine. Avec l'idée que Massoud aurait pu peut-être unir l'Alliance du Nord d'une manière dont aucun des autres commandants ne le pouvait.
Mais il reste que ça va assez bien marcher, cette Alliance du Nord.
Absolument. L'Alliance du Nord se trouve capable de reprendre le pays, mais elle le fait sous les modalités que posent les forces spéciales américaines, c'est-à-dire de donner de la, les forces spéciales américaines veulent garder le contrôle sur cette Alliance du Nord et donc refusent de donner l'argent de manière centralisée et préfèrent le donner à chaque commandant individuellement. Hein. C'est des sommes d'argent assez importantes. Hein. On parle de 767 millions de dollars distribués en valise de cash, ainsi que des armes.
Dans un pays comme l'Afghanistan de l'époque, ça fait beaucoup d'argent.
C'est une vraie somme. C'est une vraie somme. Et ces sommes sont données à chacun des commandants individuellement, ce qui déjà prépare l'une des logiques qui va ensuite continuer, c'est-à-dire l'existence de plusieurs potentats qui ont les moyens de résister à l'État central. La deuxième chose qui est centrale dès le début de la guerre, hein, c'est que la guerre est menée par des forces spéciales qui reçoivent une licence d'agir et de tuer dans un contexte où il y a une vraie volonté de revanche par rapport au 11 septembre. Il faut se rappeler les paroles de l'époque, celles du président Bush, qui vraiment parlent de la nécessité de se venger. Les forces spéciales américaines reçoivent donc l'autorisation de mener des exécutions ciblées, hein, et c'est la logique principale d'action dans la guerre dans la décennie qui suit. C'est des forces spéciales qui, de nuit, vont faire des raids dans des maisons, attraper quelqu'un, l'amener soit dans une prison secrète ou l'exécuter directement. Cette licence que vont recevoir les forces spéciales a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'elle implique d'avoir du renseignement. Or, avoir du renseignement, c'est avoir des gens au sol. Or, les Américains, à la base, n'ont personne d'autre au sol que les potentats qui se réinstallent.
Après, il y aura des drones, mais à cette époque-là, c'est...
Mais les drones posent le même problème, il faut savoir qui cibler. Et tout le problème qui se joue dans cette question-là, c'est que pour savoir qui cibler, les Américains vont devoir avoir des relais locaux, ce qu'ils n'ont pas à l'époque. Et donc, ils vont s'appuyer sur les potentats qu'ils ont soutenus, ces commandants, qui vont, eux, en profiter pour se débarrasser de leurs rivaux de l'époque. Et donc, les forces spéciales américaines deviennent le bras aveugle d'intérêts locaux qu'ils ne contrôlent pas et se mettent à tuer des gens en pensant que ce sont des talibans ou des militants d'Al-Qaïda, sans très bien savoir qui c'est. Cette logique aussi de revanche se traduit par la perte de l'opportunité parfaite, les Américains ayant assurer l'écrasement des talibans lorsque Mollah Omar propose la reddition du mouvement en échange d'une forme d'amnistie. Washington refuse quand les offres successives que feront les talibans jusqu'en 2004 arrivent, Washington refuse à nouveau, ce qui amènera ensuite, au milieu des années 2000, une situation où les talibans, quand ils auront repris une capacité militaire, eux, à refuser toute forme de négociation pendant un temps. Hein.
C'est marrant parce que on y reviendra, mais on est encore là en permanence là-dedans aujourd'hui. C'est vraiment les rapports de force qui est derrière la négociation. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le péché originel de ça, c'est ces premiers temps de l'intervention, disons, occidentale en Afghanistan, où les offres avaient été faites par les talibans et où les Occidentaux avaient tout refusé. Quoi.
Oui, ils avaient perdu, ils n'étaient plus rien. Il suffisait de les laisser rentrer chez eux, éviter de se faire mettre à Guantanamo. Et c'était ça leur demande, ils voulaient éviter Guantanamo fondamentalement. Ils voulaient pouvoir être protégés de leurs rivaux
après,
locaux.
C'est difficile de faire de la contre-histoire et d'affirmer que les talibans n'auraient pas profité pour reprendre du poil de bête. J'imagine que c'était ça l'inquiétude américaine aussi.
Non, je pense plutôt qu'à l'époque, il était impensable de ne pas punir ceux qui étaient d'une manière ou d'une autre mis en responsabilité des attentats du 11 septembre. Et à l'époque, on considérait que les talibans Al-Qaïda, c'est la même chose. Hein, et c'est un discours qui a continué jusqu'à peu près 2014. Hein. L'un des arguments centraux en 2012, 2013, 2014 de Washington pour refuser de négocier avec les talibans, c'est de dire les talibans Al-Qaïda, c'est la même chose, c'est un mouvement terroriste. Et c'est la même chose. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'administration américaine accepte de séparer, bien que en off, les analystes vous disaient qu'ils savaient très bien que les deux organisations étaient distinctes. Il a fallu beaucoup de temps pour que le caractère nationaliste des talibans soit reconnu, à la différence d'Al-Qaïda, qui a un vrai agenda global. La dernière erreur, le dernier péché originel, pour reprendre votre expression, c'est la manière dont on a structuré le régime afghan. Et on a structuré le régime afghan selon une double logique. Le premier...
Alors ça, on va rappeler que c'est Hamid Karzai qui est mis au pouvoir, bon, techniquement par une supposée assemblée tribale. Enfin, c'est les Américains qui avaient envie d'Hamid Karzai.
Et voilà. C'est, il est là, le péché originel. Ouais. Il est dans ce moment-là parce que la demande, elle commence en fait, avant même la Loya Jirga, cette assemblée tribale dont vous parliez, ça commence dès les négociations de Bonn. Donc en parallèle, en fin
alors
2001.
Alors c'est qui Amit Karzai ?
Alors Amit Karzai, mais c'est tout le problème. Amit Karzai est très peu connu. C'est quelqu'un qui est assez proche des talibans idéologiquement. Hein. C'est quelqu'un qui a même collaboré avec les talibans dans les années 90. C'est le fils d'un notable un peu important du sud du pays. C'est quelqu'un qui ensuite se réfugie aux États-Unis. Et aux États-Unis, il se met à travailler pour un Afghano-Américain qui joue un rôle central dans les réseaux néoconservateurs, qui est Zalmay Khalilzad, futur représentant des États-Unis en Afghanistan, puis ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, et actuellement le négociateur en chef de l'équipe de Trump. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a un effet décisif sur la manière dont va se dérouler toute cette histoire. Et Zalmay Khalilzad est chargé par un think tank néoconservateur américain dans les années 90 de faire un rapport, un white paper, un papier blanc, sur la politique qu'il faut avoir vis-à-vis de l'Afghanistan dans une volonté justement de faire un papier anti-taliban. Karzai est un de ses aides et à partir de là va se connecter au réseau néoconservateur. Bush, le président Bush insiste et son conseiller principal sur l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, toujours cet homme-là, hein, insiste que Hamid Karzai soit président parce qu'il considère que c'est un interlocuteur sur lequel ils peuvent compter. C'est à la fois une question d'avoir son homme à Kaboul, mais c'est aussi un problème de vision de ce que sera l'Afghanistan. C'est-à-dire que l'un des éléments essentiels de beaucoup de gens qui parlent de l'Afghanistan encore aujourd'hui, c'est une forme d'anthropologie imaginaire d'un pays tribal, d'un pays qui n'aurait jamais connu l'État et d'un pays qui ne serait pas apte à être un État moderne. Et comme c'est un pays qui ne serait pas...
C'est donc un truc essentiellement orientaliste ces bédouins, enfin pas ces bédouins, mais ces types des montagnes qui ne connaissent que la guerre.
Tout à fait, ça vient des papiers coloniaux britanniques qui sont toujours cités. Vous pouvez vous retrouver dans une réunion de très sérieuse d'experts de l'Afghanistan et quelqu'un peut vous citer en tout sérieux les Elphinstone Papers de 1879 et les papiers des agents coloniaux britanniques en vous disant, vous voyez, l'Afghanistan c'est ça, un peu comme si on vous parlait de la situation dans le Midi-Pyrénées à la fin du 19e siècle pour vous essayer de vous rendre compte de la politique à mener actuellement. Hein. C'est quelque chose qui est considéré comme tout à fait normal de faire appel à des observations d'experts coloniaux du 19e siècle pour justifier une politique actuelle.
Sous l'idée que l'Afghanistan est un pays qui n'a pas d'histoire aussi peu
tout
et qui est, où les structures sont immuables.
L'immuable cimetière des empires qui a été envahi pour tant de fois, l'immuable carrefour des empires qui serait complètement contradictoire avec le fait que c'est un cimetière. Mais bref, cet orientalisme joue un rôle essentiel parce que face à des demandes populaires, fondamentalement, et on va le découvrir par exemple aux élections de 2009, quand on a pour la première fois une fraude massive évidente dans les élections. Enfin, après, il y a les législatives de 2005 qui sont frauduleuses, mais la présidentielle de 2009, la fraude est évidente. Les 9000 lettres sont envoyées de tout le pays dans une société où le taux d'alphabétisation est bas, donc 9000 lettres, en fait, c'est énorme, sont envoyées aux Nations Unies disant il n'est pas possible que 100% des gens et voté dans mon district pour Hamid Karzai, moi-même, j'ai voté contre. Et ouais. Ces 9000 lettres n'ont aucun effet. Les Nations Unies reconnaissent l'élection, alors même qu'il y a une vraie demande hein, ici de voter.
Donc c'est l'idée toujours que les États-Unis, à travers le pivot qu'est Hamid Karzai, le pensent comme une structure tribale où il faut négocier avec les chefs tribaux, il faut tenir ça par le tribalisme, alors qu'en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que il y a des aspirations un peu plus simples de démocratie, de bonne gestion, de vie économique et politique normale, quoi.
Tout à fait. La tragédie en Afghanistan, c'est que l'intervention occidentale est partie de l'idée que les Afghans avaient besoin d'un vrai chef, une constitution présidentialiste, alors même que beaucoup de gens demandaient des modalités plus, plus républicaines, plus avec un pouvoir plus décentralisé. Il y avait l'idée qu'il faut à tout prix en Afghanistan un homme fort, qui soit à tout prix un Pashtun, parce que seul un Pashtun peut gouverner le pays. Et ça, qu'est Hamid Karzai, un Pashtun du Sud. Voilà, on a le Pashtun du Sud. Et la tragédie là-dedans, c'est que les talibans qui se sont toujours positionnés comme nous sommes l'État, nous voulons incarner l'État, ont fini, en raison des politiques occidentales, de ne pas donner de place à l'État, à devenir l'acteur qui s'est mis à nouveau à incarner dans les années 2010 l'État.
Ouais, mais alors donc on va répéter. Donc il y a cette structure qui est imposée, qui marche un certain temps, qui est soutenue par une présence otanienne très forte. C'est le moment où la France, notamment, enfin où toutes les puissances de l'OTAN sont des forces d'occupation/de gestion du territoire afghan. Mais ça échoue, enfin progressivement mais quand même massivement, et à partir de 2009, il y a quand même sa deuxième phase, qui coïncide aussi avec l'arrivée de Barack Obama au pouvoir aux États-Unis, qui est ce qu'on a appelé le surge. C'est-à-dire, à la fois, mais alors on ne sait jamais si on décrit, disons, l'insurrection afghane qui monte avec la remontée des talibans.
Le mot est censé décrire l'augmentation du nombre de troupes américaines.
Et c'est aussi l'augmentation du nombre de troupes américaines. Enfin, en tout cas, c'est l'idée qu'il y a des forces qui étaient invisibles et qui remontent à ce moment-là. Enfin, c'est l'idée qu'il change, il y a quelque chose qui change, en tout cas.
Oui. Alors, en fait.
Et qu'est-ce qui change?
Ce qui se passe depuis, ce qui amène en 2009 Obama à augmenter les troupes américaines, c'est le résultat de l'échec, hein, de la production, de l'intervention dans les années précédentes, parce que sur toute une série de dossiers, l'économie, la justice, et surtout sur le dossier militaire, on voit bien que les talibans sont en train de monter. En 2005, les talibans deviennent capables de se déplacer par colonne de milliers d'hommes. Il devient très clair en 2006 qu'une partie du pays est en train d'échapper à Kaboul. Et donc, les officiers américains...
Et ça, malgré une présence quand même massive militaire.
Malgré une présence croissante, et plus on met des troupes, et plus les talibans progressent. Et plus on met de l'argent, et plus cet État s'effondre. C'est pour ça que je parlais du péché originel, hein. Fondamentalement, la guerre est perdue dès 2005-2006.
C'est fascinant. Donc, plus on met d'argent, plus on met d'hommes, plus ça s'effondre. Du coup, en 2009, on décide d'en mettre beaucoup plus.
Voilà. Et ce qui se passe, c'est exactement l'inverse de ce qu'a promis Obama, de ce que pense Obama. Obama avait promis de réduire les interventions américaines en Irak et en Afghanistan. Et il fait le surge sous la pression des militaires, des officiers américains, dans l'espoir qu'une augmentation des troupes, hein, et on retrouve une logique très proche de celle du Vietnam, que l'augmentation des troupes permettra une victoire décisive qui permettra de retirer les troupes. Alors, évidemment, il se passe exactement l'inverse, d'autant que le surge est extrêmement mal pensé.
On va le dire, c'est globalement, on multiplie par 4 les effectifs, on passe plus ou moins de 25 000 soldats américains à presque une centaine de milliers.
Alors, en fait, le surge précisément, le moment du surge de 2009, c'est un passage de 90 à 130 000. Mais en fait, le surge dissimule une augmentation depuis 2002 qui est en fait beaucoup plus progressive, même si elle est en fait très forte, hein, qui est ce 25 000 à 90 000. Et donc, il y a une multiplication par 4 sur la décennie, en même temps qu'il y a une multiplication de l'argent. Hein. Moi, je suis un spécialiste du droit, et dans le secteur judiciaire, par exemple, secteur le plus délaissé, alors même que la demande de justice était un des moteurs de l'arrivée des talibans, les États-Unis dépensent entre 2002 et 2008 des sommes relativement dérisoires, et d'un seul coup en 2008 dépense 1 milliard juste dans le secteur de la justice, hein. Et donc on a ces effets d'arrivée massive d'argent dans des structures qui sont pas capables de les gérer, et surtout
donc ça crée comme toujours de la corruption massive.
Tout à fait, et là on en arrive à d'où vient la corruption en Afghanistan. La corruption n'est pas un problème de la société afghane. Le régime communiste dans les années 80 n'est absolument pas corrompu. La corruption en Afghanistan, elle vient d'abord des Occidentaux, hein, des entreprises occidentales qui reçoivent des sommes énormes à gérer, alors même qu'en fait elles sous-traitent leur action à des entreprises qui sous-traitent elles-mêmes, entraînant des véritables prébendes, hein, une véritable logique de profit qui amène assez peu d'effets en termes de politique publique.
Alors ça, on peut ajouter, pour rester sur le domaine vraiment militaire, que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en tête, mais on n'en parle pas si souvent, mais que derrière la présence américaine, il y a aussi énormément de sociétés militaires privées en Afghanistan à cette période-là. Alors c'est utilisé au début notamment par le Canada, mais aussi ensuite massivement par les États-Unis, ce sont les sociétés à la Blackwater, etc., etc. Mais enfin, faut dire que c'est plus que massif. Au total, les États-Unis ont envoyé nettement plus de personnel des sociétés militaires privées que de soldats. Et à la louche, dans les années autour de 2010-2011, pour avoir un ordre d'idée, c'était à peu près 80-90 000 soldats américains pour 100 à 120 000 personnel de sociétés militaires privées. Donc, il y a eu aussi une privatisation massive de l'effort de guerre américain.
Non, mais si on devait dire les choses simplement et brutalement, la guerre d'Irak comme la guerre d'Afghanistan, c'est un formidable moment de transformation d'argent public en argent privé. Et c'est le cas évident dans le cas de l'usage de forces privées, mais c'est aussi le cas dans tous les contrats qui se jouent autour de l'armée américaine pour assurer sa logistique ou pour assurer les politiques de développement que font l'armée américaine, qui sont faites par des entreprises. Et donc, ce qui se passe pendant la guerre d'Afghanistan, hein, c'est fondamentalement de l'argent payé par des impôts de concitoyens, en France d'ailleurs comme aux États-Unis, hein, c'est la même logique, qui va être transformé en profit pour quelques boîtes boîtes, enfin pour un certain nombre de boîtes.
Alors comment ça se fait la bipartition des tâches ? C'est-à-dire qu'est-ce que font les militaires et qu'est-ce qui est délégué précisément aux sociétés privées ?
Alors énormément de choses sont déléguées aux sociétés privées. Ça va de faire la cuisine. Donc souvent, dans des bases, des postes avancés américains, le cuisinier était un Philippin ou un Guatémaltèque qui était payé par une entreprise privée. Ça va de la logistique entre les bases, mais ça va aussi jusqu'à des anciens membres des forces spéciales qui démissionnent, qui sont payés 3, 4, 5, 10 fois plus, qui deviennent des contractors, des soldats privés qui servent en fait à faire les opérations côté pakistanais de la frontière, permettant que si jamais une de ces personnes se faisait arrêter, l'armée américaine pourrait nier toute responsabilité. Et donc on est à la fois chez des gens qui vont mettre en place des milices, faire à manger, déplacer un camion, faire un peu d'expertise sur où est-ce qu'il faut creuser des puits. Hein. Et donc c'est toute une série de tâches qui sont faites dans l'idée que l'armée américaine aurait un intérêt à ne pas garder en interne des compétences dont elle n'a besoin que pour un temps court sur cette guerre. C'est une logique qui aura été permanente dans cette guerre. Cette guerre aura été menée, pour reprendre l'expression d'un spécialiste de la contre-insurrection américaine au Vietnam, non pas sur 15-20 ans, mais par série de 6 mois, 1 an, multiplié par 15 ou 20.
Ouais, alors on va le dire aussi que, mais vous avez déjà commencé à en parler tout à l'heure, mais c'est aussi un des modes préférés d'action, enfin en tout cas privilégié d'action des Américains et des Occidentaux en général, c'est des actions ciblées, qui sont des assassinats, ce que vous décriviez, dans la nuit, des opérations à héliporter, enfin des assassinats ou en tout cas des enlèvements, des arrestations, mais qui, dans une certaine mesure, matérialisent vraiment l'échec croissant à contrôler et à gérer le territoire afghan, quoi.
Tout à fait. Quand je commence à travailler en Afghanistan en 2010, il y a un phénomène qui est très paradoxal.
C'est presque des opérations d'insurrection, quoi. C'est presque de la guerre irrégulière de la part des Occidentaux, qui matérialisent leur incapacité à mener une guerre régulière qui réussit.
Oui, oui, tout à fait. Et vous avez cette logique absolument paradoxale, sinon même schizophrénique, que moi j'avais quand je discutais avec des militaires occidentaux à l'époque, qui vous disaient « Nous sommes en train de gagner la guerre, regardez, la preuve c'est que nos nombres d'opérations augmentent. » Oui, mais si vos opérations augmentent, c'est qu'en fait l'insurrection augmente. Et il y a eu un déni qui était très impressionnant dans les années 2010 de voir que en fait ces opérations étaient souvent contre-productives parce que le ciblage et le renseignement étaient liés aux alliés. Alors, on a des exemples dans des provinces qui sont tragiques. Moi j'ai travaillé dans plusieurs provinces où justement j'ai essayé de dénouer ces histoires-là. Ce qu'on voyait c'est que très souvent les militaires américains exécutaient ou arrêtaient des gens qui n'avaient rien à voir avec les talibans, ce qui permettait aux talibans de se positionner comme les acteurs qui apaisaient les conflits. À l'inverse, les Américains apparaissaient comme ceux qui s'impliquaient dans les conflits interpersonnels, les conflits fonciers, les rivalités issues de la guerre des années 80, et ils apparaissaient comme ceux qui prenaient parti. Il y avait une partialité des forces spéciales derrière leur assurance de pouvoir cibler et éliminer les talibans. Ce qui se passait réellement, c'est qu'ils se retrouvaient à être une partie prenante dans chacun de ces conflits, ce qui a laissé aux talibans l'espace de la neutralité.
Oui, et paradoxalement, c'est donc une vision hyper communautariste, enfin en tout cas qui rentre complètement dans le jeu communautaire de la part des Occidentaux, alors que paradoxalement, ce que vous décrivez, c'est que la grille talibane, en un sens, par son islamisme, était plus unificatrice à l'échelle nationale, à l'échelle afghane.
Tout à fait, les talibans...
C'est-à-dire, les talibans essayaient de faire un peu nation, alors que les Américains s'impliquaient dans ces conflits sans fin, quoi.
Tout à fait, les talibans qui sont un mouvement, qui ont toujours insisté sur leur caractère national, sont un mouvement qui a un problème fondamental, c'est qu'ils sont en très 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 grande majorité composée de Pashtuns. Et donc c'est un mouvement qui, tant que, dans les années 90, tant qu'il s'impose dans les zones majoritairement peuplées de Pashtuns, ne rencontre pas ce problème. Et quand il arrive au Nord, où les Pashtuns sont plutôt minoritaires, il se retrouve dans une position où il a du mal à ne pas se faire représenter comme un mouvement Pashtun, parce que dès qu'il tue des Hazaras, des Tadjiks ou des Ouzbeks, on l'accuse de le faire au nom d'une vision communautaire du pays. Les talibans ont toujours nié cette position. Il n'empêche que, quand on regarde leur régime en pratique, ils sont très semblables à ce qu'était l'État afghan, c'est-à-dire un État qui dit que tous les Afghans sont égaux, mais les Pashtuns sont un peu plus afghans que les autres. Et c'est typiquement ce que sont les talibans, c'est-à-dire un mouvement qui nie le caractère communautaire pour favoriser ceux qui sont les meilleurs citoyens, qui sont en général des Pashtuns. Mais il y avait toujours au sein des talibans des Ouzbeks, des Tadjiks, pas de Hazaras, enfin si, enfin très peu de Hazaras, mais c'était quelques Hazaras sunnites, c'est vraiment très anecdotique. Mais il y avait surtout des Turkmènes, des Ouzbeks, des Tadjiks qui ont étudié dans les écoles, dans les mêmes écoles religieuses de la frontière afghano-pakistanaise et qui rejoignaient les talibans. Dans les années 2000, on va revoir exactement la même dynamique se passer. C'est-à-dire que le mouvement est de manière écrasante, l'écrasante majorité du mouvement est Pashtun, mais en même temps, le mouvement rejette tout un discours unanimiste sur la nation afghane, rejette toute division selon une logique communautariste, et essaye autant que possible, avec un succès mitigé mais néanmoins réel, dans les provinces du nord du pays notamment, de se positionner comme un acteur qui évite de s'impliquer dans les affaires communautaires et qui essaie de décommunautariser les conflits. Et ça se voyait notamment chez les juges talibans, les tribunaux que met en place l'insurrection, où à de nombreuses reprises, les juges favorisent, les juges donnent raison à un Ouzbek, un Turkmène ou un Tadjik contre un Pashtoun, ce qui a un effet de légitimation extrêmement important et va aider l'insurrection à s'imposer dans le nord à partir de 2008-2009, et dans les années 2010, il devient très très clair, moi quand je travaille en Afghanistan, il est très très clair que les talibans ont dépassé leur recrutement purement pashtoun des premières années, parce qu'on a des milliers de combattants ouzbeks, des milliers de combattants tadjiks, des milliers de combattants turkmènes, une logique qu'on a vu s'étendre au fur et à mesure avec l'arrivée, y compris au sein du conseil du leadership, vraiment l'organe suprême des talibans, d'oulémas tadjiks, ouzbeks et turkmènes.
Et donc, face à cette montée en puissance très claire, encore une fois de plus, des talibans qui toujours continuent à grignoter le pays, qui montent en puissance de manière absolument indiscutable, l'étape suivante, c'est 2015, puisque 2015, c'est le retrait de l'OTAN, qui laisse donc les Afghans...
2014.
Bon, mais qui laisse donc les Américains un peu seuls sur place, avec un contingent de 10 000 hommes à peu près pour aider l'armée afghane qui est censée s'être structurée. Et puis bon, voilà, c'est une impasse qui reste, qui est là depuis 4 ans, 5 ans, puisqu'on est aujourd'hui, on a l'accord récent de retrait du 29 février, sur lequel on va revenir, mais qui était déjà en gestation depuis un moment, puisque Trump, comme Obama l'avait déjà fait à l'époque, mais avait déjà annoncé clairement depuis très longtemps qu'il voulait se retirer. Il avait envoyé malgré tout plus de soldats en 2017, avec probablement dans le même geste que vous décriviez tout à l'heure qu'Obama, l'idée qu'on va en remettre un petit coup et ce sera fini. Mais Il avait commencé à en retirer fin 2018. Donc voilà, là on est un peu à l'heure du bilan. Donc retrait de l'OTAN, puis retrait des États-Unis. Comment dire ? Certes, c'est pas définitif, c'est un accord qui est censé être programmatique sur 14 mois, avec des conditions, etc. Mais bon, vu le mouvement, on voit mal les États-Unis faire machine arrière maintenant, même si les talibans respectaient pas leur partie du contrat. Donc, si on fait le bilan, c'est la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. En cumulé, c'est plus que les deux guerres mondiales, plus la guerre de Corée. C'est 2500 morts en soldats américains, 20 000 blessés. Le bilan côté afghan, je ne sais même pas si c'est possible de le chiffrer.
On parle de 200, 250, 300 000.
Bon, et en plus, pas pendant. Enfin, en tout cas, et en plus du côté américain, les blessés, c'est pas pendant la conquête, puisque c'est le moment où les Américains n'étaient pas sur place, donc c'est vraiment pendant la phase d'occupation, la décennie d'occupation et plus après. Et 1 000 milliards de dollars, 1 trillion de dollars, on appelle ça, ce qui pose un peu la question du retour sur investissement, pour prendre le point de vue américain. Il y a une phrase que j'ai trouvée que je trouve intéressante, qui s'appelle Jeffrey Eggers, qui est un ancien force spécial qui a travaillé notamment dans la Maison Blanche, d'Obama, de Bush puis d'Obama, qui disait au moment, enfin, l'année dernière, puisqu'il y a eu la révélation des Afghan Papers, fin 2019, qui sont ces documents de l'administration, qui disait que probablement que Ben Laden se marrait bien quelque part au fond de l'eau quand il voyait tout ce que les États-Unis avaient dépensé pour ne pas réussir à contrôler l'Afghanistan. Donc voilà, cette heure du bilan, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Qu'est-ce que les Américains retirent de 15 ans d'occupation ?
On voit que la guerre d'Afghanistan a été une catastrophe, on voit que ça a été un moment, une occasion d'enrichissement pour quelques-uns au prix des deniers publics. Ça, les blessés ainsi que les gens traumatisés par la guerre vont coûter à la société américaine dans les prochaines années, hein, parce qu'un trillion, c'est sans compter les effets de pension de blessés, de traumatisés, sinon on est entre 2 et 3. On est face à une guerre qui a été faite au nom du 11 septembre, mais sur lequel s'est ajouté ensuite une série de motifs installer la démocratie, permettre le droit des femmes, dont on voit à quel point ils étaient superficiels quand aujourd'hui on s'en débarrasse aussi rapidement. Et on est passé d'une situation où les talibans, parce qu'il faut rappeler qu'en septembre 2001, on était au bord de la fin de la guerre, hein, Massoud ne contrôlait plus que le Panjshir, la guerre civile était finie en Afghanistan en 2001. On est maintenant à nouveau dans la guerre civile avec des risques de... si les talibans sont dominants.
Oui, parce qu'on va rappeler que c'est pas parce que les Américains se retirent que c'est fini, puisque certes les talibans sont
la guerre va empirer.
Les talibans sont montés en puissance. Enfin, il reste toujours une armée afghane face à eux, afghane qui a été formée et financée depuis 20 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si les talibans allaient prendre le pays unilatéralement. Il va se passer des choses là maintenant.
Oui, enfin, en même temps, les talibans ont les moyens de prendre le pays. Et il est tout à fait possible que dans les prochaines années, Kaboul s'effondre. C'est une vraie possibilité. Hein. L'histoire nous enseigne que les guerres civiles se finissent en général par la victoire de l'un. On a très peu de cas de réunification entre deux armées ennemies. Hein. Donc la plus grande probabilité en Afghanistan, c'est qu'un jour quelqu'un s'impose. Le problème, c'est à quel prix.
Mais juste, les talibans, ils tirent d'où leurs ressources?
Alors, pendant des années...
Parce que, je veux dire, l'armée afghane est sous perfusion américaine, ça leur a coûté un pognon monstrueux, mais... les talibans, enfin, ils sont armés.
Il y a deux choses déjà. Un combattant taliban ne coûtera jamais autant qu'un combattant de l'armée afghane, parce que c'est l'avantage des gens idéologisés. Ils se battent pour rien. Ils se battent par engagement idéologique. Ils ne coûtent que leur nourriture et les armes qu'il faut leur fournir.
Oui, mais il faut quand même leur fournir des armes, ce qui. Voilà.
Et les talibans ont à cet égard-là eu toute une série de ressources. D'abord, l'aide pakistanaise, hein, qui a toujours été un allié infaillible du mouvement. Ensuite,
Pakistan qui lui-même est financé par les Américains, ce qui est ça de goûteux.
Ironique. Ouais. L'argent qu'il pouvait collecter sur la culture de drogue, mais c'est en fait dans les années 2000 une source relativement limitée chez les talibans, parce que la principale ressource des talibans dans les années 2000, c'est la ponction qu'ils font sur l'aide occidentale. Le gros du financement jusqu'à 2014, jusqu'au retrait pour les talibans, c'est qu'en fait pour pouvoir produire les projets de développement que promettent les entreprises qui sous-traitent à des entreprises qui sous-traitent à des entreprises qui sous-traitent, eh bien, il y a un moment, la dernière entreprise qui sous-traite, elle est prise dans la situation locale où les talibans contrôlent la région, où les talibans sont capables de tuer les employés ou de faire exploser la route en construction. Et donc, il faut payer aux talibans 10, 20% du projet pour avoir le droit de continuer le projet. Et donc, en fait, le principal financement entre 2001 et 2014 des talibans, c'est l'argent de l'intervention. Après 2014...
C'est génial, du coup, il n'y a plus besoin du Pakistan. Enfin, c'est cut the middleman, les Américains financent directement les talibans.
Et après 2014, parce que on a parfois parlé de narco-insurrection par les talibans, ce qui était une erreur grossière, parce que les talibans récupéraient de l'argent en imposant les cultivateurs, mais
gros... Donc la culture du pavot, qui est très importante, qui permet de faire beaucoup du trafic d'héroïne à l'échelle mondiale.
L'Afghanistan étant le principal producteur au monde. L'argent de la drogue est évidemment pas dans la culture, elle est dans la transformation, et les labos de transformation étaient tenus par les potentats du régime. Donc jusqu'en 2014, l'argent de la drogue était une ressource importante pour les talibans, mais néanmoins pas première. Après 2014, prenant le contrôle de la plupart des pays, les talibans ont pris le contrôle des labos, et maintenant les talibans ont les labos qui étaient avant sous le contrôle des gens liés au régime. Et donc c'est maintenant en fait que la drogue joue un rôle beaucoup plus important qu'avant, parce que depuis qu'ils contrôlent les labos, ils contrôlent les vrais profits de la drogue.
D'accord, donc... Retrait américain, montée en puissance, guerre civile qui va redémarrer de toute évidence. Mais c'est ça le truc, c'est que ce retrait américain, il est censé être sous condition, alors des libérations de prisonniers et sous condition d'un processus de paix qui s'enclenche dans les mois qui viennent.
Alors, il est censé, mais il ne l'est pas, puisque la négociation a été posée par le président Trump, non pas d'être comme un accord de paix, hein, mais bien comme un retrait américain, immédiatement en l'absence du gouvernement de Kaboul, ce qui était l'exigence des talibans. À cet égard-là,
C'est-à-dire en l'absence du gouvernement de Kaboul aux négociations.
En l'absence du gouvernement de Kaboul aux négociations. C'est-à-dire, on a eu un effet extraordinaire. C'est-à-dire que le gouvernement reconnu par les Nations Unies, celui du président Ashraf Ghani, a été exclu d'un processus de négociation dans un conflit armé le concernant. Il a été délégitimé par la puissance même qui l'a mis au pouvoir, les États-Unis. Hein. On est dans un contexte où l'accord affirme le manque de légitimité politique du régime de Kaboul. C'est un accord qui, à cet égard-là, est catastrophique. Ce que l'accord entérine, c'est le retrait américain. À l'inverse, tout ce qui a à voir avec les négociations de paix entre le mouvement taliban et le régime de Kaboul est complètement hypothétique. On l'a bien vu avec la clause de libération de 5000 prisonniers talibans en échange de 1000 prisonniers du régime tenus par les talibans. Le gouvernement de Kaboul n'avait rien signé et Ashraf Ghani a dit très clairement qu'il n'y avait pas de raison qu'il libère 5000 prisonniers. Il n'avait jamais participé à la décision qui amenait à la libération de ces prisonniers. Hein, c'est pour ça qu'on a vu immédiatement d'un côté l'accord capoté au sens où les discussions entre le régime et les talibans n'ont toujours pas cours. Mais en même temps, le retrait américain se fait. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une reddition.
Mais du coup, la question, c'est le régime de Kaboul, il tient sur quoi ? C'est-à-dire, enfin, je veux dire, que ce soit géographiquement ou socialement.
Le régime de Kaboul tient sur essentiellement deux choses. Enfin, sur essentiellement une chose, c'est-à-dire les villes. Il y a une région qui s'appelle le Hazarajat, qui est au milieu du pays, mais c'est une zone de montagne assez marginale sur le plan politique. Les talibans n'ont pas besoin de la conquérir pour s'emparer du pays, peu importe, quelque part. C'est les villes, l'élément essentiel que tient le régime.
Donc une bourgeoisie relativement cultivée, développée ?
Non, des villes qui aujourd'hui sont très très pauvres, qui sont des mégapoles qui se sont développées dans le contexte de l'intervention avec une classe moyenne extrêmement réduite, qui est largement partie aujourd'hui, qui n'existe plus. Et donc c'est des villes paupérisées.
Alors pourquoi le pouvoir les tient ?
Il les tient parce que, on en arrive à un point essentiel, la situation afghane pourrait empirer encore. Parce que ces villes sont sociologiquement très différentes du public qui a soutenu les talibans historiquement. Hein. Les talibans, c'est un mouvement très rural, un mouvement de village, alors que le public de ces villes est un mouvement qui... Et le public de ces villes est généralement très hostile aux talibans. Le problème, c'est que, pour autant, il n'y a pas de vraie différence idéologique entre aujourd'hui le régime et les talibans. Hein. Le régime de Kaboul, dans tous les moments où on a eu des discussions entre des représentants du régime et des représentants des talibans, sur la question des droits des femmes, ou la question de l'islamisme, plus généralement, du caractère islamique de la Constitution, il n'y a jamais eu vraiment de difficulté à produire un accord. Hein. Le régime de Kaboul est un régime qui, fondamentalement, serait tout à fait prêt à être beaucoup plus islamiste. Le problème qui se pose beaucoup plus d'un point de vue social, c'est que les gens qui vivent dans ces villes sont un public potentiel pour un mouvement qui n'est pas les talibans, mais beaucoup plus l'État islamique. Et là, on voit tout l'effet de modernisation de la société afghane dans la guerre. La guerre a eu un effet de globalisation de la société afghane à vitesse accélérée, où ce qui se passe en Syrie, en Égypte, au Mali, a commencé à être des choses qui sont très importantes dans la société afghane. Hein, et l'apparition de l'État islamique en 2014-15 en Afghanistan, enfin sur la frontière afghano-pakistanaise, a été le résultat de ça. Et vous avez aujourd'hui tout un public pour ce mouvement-là, qui pour l'instant n'a jamais... Les talibans ont très vite vu le danger, ils ont mobilisé l'ensemble de leur appareil militaire pour combattre l'État islamique, et donc l'État islamique n'a jamais réussi à s'imposer sur une partie importante du territoire. Mais néanmoins, pour ces villes, les talibans apparaissent, permettez-moi le mot, comme des péquenauds, comme un mouvement rétrograde. Les talibans pourraient tout à fait s'emparer de ces villes militairement, mais ils ont beaucoup moins de soutien dans ces villes qu'ils en ont dans les campagnes.
Ouais, mais alors c'est très intéressant parce que ça nous permet d'arriver sur, disons, le panorama à la fois diplomatique et stratégique qui sous-tend l'accord récent. C'est parce qu'il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, mais qui est revenu très récemment et avec beaucoup de force sur la scène afghane, c'est la Russie, avec ce qu'on a appelé le processus de Moscou, qui était concurrent du processus de Doha, donc entre les États-Unis, enfin qui était le processus des États-Unis, mais du coup qui a peut-être aussi accéléré la conclusion de l'accord par les États-Unis, parce qu'il y avait un processus concurrent, et la Russie qui s'est mise à discuter très fort avec les talibans, notamment parce que la Russie a vu dans les talibans une force opposée à l'État islamique qui l'inquiétait beaucoup plus à l'échelle de la région, quoi.
Oui, en fait, tous les pays de la région maintenant, à l'exception de l'Inde, mais l'Iran, c'est pareil. Quelque part, on peut regarder l'accord américain comme une délégation aux talibans du combat contre l'État islamique. Hein. Tous les pays de la région sont maintenant d'accord que si un pays empêchera l'ancrage de l'État islamique en Afghanistan, c'est les talibans. Hein, et ce que font aujourd'hui l'Iran comme la Russie, c'est de soutenir les talibans pour s'assurer que l'État islamique ne prenne pas la place.
Parce qu'il faut juste préciser un truc, c'est que vous avez commencé à situer, mais qui est présent dans vos papiers, c'est que les villes ont explosé, notamment parce qu'il y a eu une grande sécheresse en 2018-2019 en Afghanistan, ce qui fait qu'il y a eu un gros exode rural, ce qui fait que voilà, ces villes que vous décriviez, avec encore le soubassement, j'imagine, soviétique, même en termes d'infrastructures, ont explosé démographiquement, et que ça, c'est évidemment un vivier de très jeunes, très précaires, qui sont la cible de l'État islamique.
On retrouve le public classique, si vous voulez, les villes afghanes, c'est des villes qui sont passées, une ville comme Kaboul est passée de 600-700 000 habitants au début, en 2001-2002 avec le retour des réfugiés, à 5 millions aujourd'hui. Et encore, les chiffres sont incertains. Ça pourrait être plus. Donc c'est des villes qui ont été multipliées par 10 quasiment, hein, par 7-8. Quoi. Le public classique de l'État islamique, on l'a vu au Moyen-Orient, on le voit de la même manière en Afghanistan, c'est des gens qui sont allés à l'université, qui sont souvent salafistes. Les talibans, pour information, ne le sont pas. Ils sont en fait... Ils sont inscrits dans la jurisprudence hanafite, qui est la jurisprudence classique en Afghanistan. Hein, donc c'est un mouvement qui s'inscrit dans la manière, dans l'islam classique afghan, en fait, hein, en termes de jurisprudence islamique. À l'inverse, c'est exactement ce qui fait d'eux des gens aussi du passé, pour des éduqués qui ont été à la fac de théologie, qui suivent les vidéos sur YouTube de prédicateurs saoudiens ou pakistanais, qui sont typiquement le public cible de l'État islamique. Et ce public-là, c'est des gens qui ont fait des études, n'ont pas trouvé de travail, parce qu'on a produit de nombreux instituts d'études supérieures en Afghanistan, mais on n'a jamais produit, en 20 ans d'intervention, il n'y a jamais eu ni production d'industrie, ni amélioration de l'agriculture afghane, et on a produit surtout des services qui servaient aux ONG et aux nombreux acteurs de l'intervention, et qui ont donc disparu immédiatement après le retrait en 2014. Et vous avez donc une économie qui est en crise, qui ne donne pas d'emploi à ses éduqués. Vous avez donc exactement une situation révolutionnaire, et l'État islamique, c'est un mouvement qui est parfaitement apte à capter cette population-là pour en faire une situation révolutionnaire.
Bon, bah donc il y a ça, il y a cet enjeu-là, et alors on va peut-être, si ce n'est essayer d'être optimiste, enfin en tout cas essayer de voir les perspectives stratégiques. C'est-à-dire, en même temps, l'Afghanistan est aussi un pays qui a beaucoup de ressources, qui a des ressources minières, qui a des ressources stratégiques de par sa position, et sur lequel se tournent notamment beaucoup de regards chinois, puisque ça pourrait être un verrou clé dans les routes de la soie qui s'étendent depuis la Chine à travers l'Asie centrale, on le sait depuis quelques années, avec énormément de moyens. Donc il y a aussi, disons, il y a aussi des options stratégiques, enfin, il pourrait se passer des choses, mais c'est toujours avec ce caveat, avec cette condition suspensive immense, qu'est la stabilité, cette espèce de stabilité impossible du pays qu'on n'arrive pas à trouver.
Oui, tout à fait. Les ressources afghanes, les ressources qu'a l'Afghanistan avec... peut-être, dans certains cas, un peu de fantasme, mais certaines existent, hein, il y a des vraies ressources minières, ne seront exploitables que quand il y aura la paix. Et on voit à cet égard-là le jeu chinois, hein, c'est-à-dire que les Chinois attendent le gagnant. Et le gagnant ira voir les Chinois. Et à cet égard-là, les Chinois, comme les Russes, comme les Iraniens, considèrent que les talibans sont le moyen d'éviter l'État islamique, et ils jouent sur les deux tableaux, à la fois le régime de Kaboul, à la fois les talibans, attendent d'avoir une situation stable et négocieront sans aucune difficulté avec l'acteur qui restera. Ceux qui ont été exclus des potentialités économiques de l'Afghanistan, c'est d'abord les Occidentaux.
Ouais, mais vous voyez, du coup, la dernière question, c'est pour essayer d'éviter justement cette vision essentialiste, orientaliste qu'on décrivait tout à l'heure de voilà, l'Afghanistan, cimetière, fossoyeur des empires, etc., l'instabilité consubstantielle à ce pays-là. Bah, je veux dire, on a décrit une situation qui probablement va s'empirer avant peut-être un jour de s'améliorer, mais enfin, comment dire, quelle est la... J'ai pas envie de faire des prédictions, mais quelle est la voie? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, cette zone à la frontière pakistanaise, qui est vraiment la zone instable par excellence, avec cette frontière extrêmement poreuse, qui est le foyer de tout le djihadisme, qui est un endroit que personne n'arrive à contrôler depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà. C'est-à-dire, quelles sont les perspectives pour une éventuelle stabilisation du pays?
Une victoire de l'un des camps, et pour l'instant, au vu des forces en présence et des progressions des dernières années, ceux qui apparaissent le plus aptes à s'imposer dans le pays, c'est les talibans. Donc c'est pas qu'il n'existe pas de perspective de stabilisation en Afghanistan. Hein. En 2001, les talibans avaient quasiment gagné. Il est tout à fait pensable que les talibans reprennent le pays, et on aura à nouveau un pays qui sera... stable politiquement sous le joug d'un régime taliban. Et là, vous pourrez voir une exploitation chinoise des ressources en Afghanistan qui sera tout à fait pensable. C'est juste que aujourd'hui, on ne voit pas comment le régime de Kaboul pourrait remonter la pente, sachant que chaque événement qui se produit dans les dernières années amène une situation qui empire. Hein. Les dernières élections sont à cet égard très représentatives.
Élection où le président a été réélu.
Alors, le président a été réélu, on ne sait pas, parce que les fraudes ont été très importantes. Et donc, ce qu'il s'est passé le jour la prise de fonction, c'est que les deux candidats en question ont tous les deux fait une prise de fonction présidentielle. On est donc dans un pays où, à chaque fois qu'on a une élection maintenant, hein, 2014, ça a été pareil, l'élection ne légitime pas l'un des deux leaders, enfin l'un des deux candidats, au contraire. Dans les deux cas, les résultats n'ont pas été reconnus. Et dans les deux cas, la personne qui a été mise au pouvoir, donc Achraf Ghani, dans l'élection précédente, et à nouveau probablement Achraf Ghani, parce que l'acte d'Abdullah est plus symbolique que efficace, n'est pas représentatif. Il est d'ailleurs très probable qu'Achraf Ghani ait perdu les élections de 2014 comme celles de 2019.
Bon, mais et du coup, si on admet que le retour des talibans, pour plein de raisons structurelles, de fond et surtout de longue durée, apparaît plus ou moins inévitable. Mais c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que
pas
c'est...
inévitable.
Probable. Non, mais probable, disons. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable du point de vue occidental, c'est-à-dire le symbole? Enfin, je veux dire, si les talibans reprennent le pays 20 ans après, c'est littéralement 2, 3 trillions de dollars, 2, 3, 4 milliers de morts pour rien.
Oui.
Mais du coup, un symbole comme ça, ça vous paraît réaliste que ce soit accepté?
Il est devenu très clair, hein, et Trump en est à cet égard-là un symbole, que les États-Unis ne mettront plus de ressources en Afghanistan. La seule chose que feront les États-Unis, c'est peut-être laisser quelques forces aériennes qui essaieront d'éviter la chute des villes, d'une ville afghane, avant les élections présidentielles à venir. Dans une perspective plus longue, il est extrêmement improbable que les États-Unis réinvestissent des ressources en Afghanistan. Les États-Unis se sont mis hors jeu en Afghanistan dans les prochaines décennies. Il est très peu probable d'ailleurs qu'on ait une intervention de cette ampleur-là à nouveau, hein, dans les années à venir.
Et donc c'est un vide en termes de grande puissance stratégique qui sera comblé soit par la Chine, soit par la Russie, soit par l'Iran, qui sont les puissances qui en tout cas peuvent profiter de l'appel d'air que le retrait américain
Oui, il l'est déjà quelque part, au sens où l'Iran, le Pakistan et la Russie, on n'est pas dans une situation comme la situation au Sahel, qui à cet égard-là est encore plus inquiétante, où quelque part, aucun des acteurs régionaux n'est capable de gérer son voisin. Il n'y a pas cet effet un peu domino, quelque part, qu'on a l'impression d'avoir au Sahel. Le Pakistan est un État très solide, l'Iran est un État qui a une capacité comme la Russie ou l'Inde ou la Chine, et donc en fait c'est surtout l'existence d'un centre d'instabilité localisé qui aujourd'hui est la perspective de l'Afghanistan dans les prochaines années, tant qu'en tout cas le régime ou plus probablement les talibans ne s'imposent.
Très bien, merci beaucoup Adam Bachko.
Merci.
C'est donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer par mail à l'IRSEM ou sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, notez et commentez le podcast, notamment sur iTunes. Ça aide à le faire connaître et ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.